6h41 sur France Culture et c'est l'heure des enjeux internationaux. J'ai écouté, j'ai compris, a promis ce week-end Liz Truss, la première ministre britannique, dans une tribune publiée dans le quotidien populaire The Sun. Ceux qui doutent de son leadership sont de plus en plus nombreux et sa cote de popularité est en chute autour de 20%. Son plan budgétaire, annoncé le 23 septembre et qui prévoyait des dizaines de milliards de livres de baisse d'impôts sans financement clair, a complètement déstabilisé les marchés et a fait trembler la livre. Résultat, après 3 semaines de turbulence, Liz Truss s'est résolue vendredi à remercier Kwasi Kwarteng, son éphémère ministre des Finances. Le nouveau chancelier de l'échiquier s'appelle Jeremy Hunt. C'est un conservateur modéré. Il avait échoué à 2 reprises dans la course à la tête du parti conservateur. Alors que va-t-il faire pour redonner confiance aux investisseurs, mais aussi comment Liz Truss en est-elle arrivée à ce point de rupture après seulement quelques semaines à la tête du pays? Et d'ailleurs, quel est son avenir en tant que première ministre? Pour répondre à ces questions, nous sommes ce matin avec Catherine Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni. Commençons, Catherine Mathieu, par ce qui s'est passé ce week-end. Comment s'y est pris Jeremy Hunt, le nouveau ministre des Finances, pour tenter de rassurer le peuple britannique?
Bien, Jeremy Hunt a d'abord, je pense, tenté de rassurer les marchés financiers qui ouvrent ce matin. Et ce qu'il a expliqué, c'est que tout était sur la table en matière de budget, c'est-à-dire qu'il est prêt à renoncer aux baisses d'impôts. Certaines déjà ont été annulées, hein, certaines qui avaient été proposées par Liz Truss et son précédent chancelier de l'échiquier il y a quelques semaines. Et Jeremy Hunt est aussi prêt, nous annonce, qu'il va falloir s'attendre à des baisses de dépenses publiques. Donc c'est une période d'austérité, très probablement, qui s'annonce pour les marchés. Hunt dit que ça sera difficile, mais qu'il sera un bon chancelier de l'échiquier et que Liz Truss reste la première ministre.
Il a déclaré sur un ton assez britannique, assez anglo-saxon, il a dit « les dépenses ne vont pas augmenter autant que ce que les gens espèrent et les taxes ne vont pas baisser aussi rapidement que ce que les gens pensent ».
Oui, c'est ça. En fait, le problème de Jeremy Hunt aujourd'hui, c'est d'abord de rassurer les marchés. Ces marchés, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont pris peur quand un plan pour la croissance tel qu'il était présenté par le gouvernement a été annoncé le 23 septembre. Et ce plan annonçait de nombreuses baisses d'impôts, annonçait un soutien qu'on connaissait déjà pour les prix qui plafonnaient les prix de l'énergie pour les ménages. Ça, c'était une chose que les marchés avaient bien acceptée. Mais pour la question des baisses d'impôts, qui représentaient un montant d'au moins 60 milliards, il n'y avait pas en face de recettes qui étaient proposées. Donc du côté des marchés financiers, on a pris peur. On a trouvé que ce gouvernement n'était pas crédible dans ses annonces d'une politique très, très néolibérale, très axée sur des mesures visant à relancer l'offre. Et aujourd'hui, Jeremy Hunt doit nous annoncer aujourd'hui, dans les jours qui viennent, que si le gouvernement britannique va bien prendre en compte le fait que les budgets doivent être rééquilibrés. Et la prochaine échéance est la présentation du budget le 31 octobre. Et ça sera un élément, bien sûr, très, très important. Et il faut que d'ici là, les marchés soient rassurés dans la capacité du gouvernement britannique de rééquilibrer les comptes publics. Ça, c'est vraiment le premier élément sur lequel doit jouer Jeremy Hunt.
C'est vrai, hein, ces baisses d'impôts étaient beaucoup trop floues pour ces investisseurs des marchés financiers. Est-ce que l'économie britannique a commencé à faire peur? D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des comparaisons avec la Grèce des années 2011-2012 qui avaient été faites, puisque vraisemblablement, le monde financier britannique a tout simplement redouté l'effondrement, Catherine Mathieu?
Mais surtout, ce qui est très étonnant dans cette affaire, c'est que les mesures qui étaient annoncées de baisse d'impôts auraient pu, en principe, séduire les marchés, puisqu'on baissait les impôts sur les contribuables qui avaient les revenus les plus élevés. On suspendait la hausse de l'impôt du taux sur les sociétés. On prenait de nombreuses mesures qui allaient dans le sens d'avoir un rôle donné plus important aux intervenants du secteur privé, aux entrepreneurs, aux ménages les plus riches. Tout cela, en principe, allait dans le sens, un sens positif pour les marchés financiers. Mais le problème, c'était l'incertitude qui était créée par rapport au financement sur ces mesures. Et les marchés détestent l'incertitude. C'est ça qui les a fait prendre non pas paniquer, mais s'inquiéter fortement par rapport aux mesures qui étaient annoncées et demander des éléments plus précis. Aujourd'hui, ces marchés financiers sont en attente donc de nouvelles mesures qui seraient plus des mesures d'orthodoxie budgétaire telles que les conservateurs les présentent depuis des années, annonçant une baisse des déficits publics, une baisse de la dette publique. C'est ça qui est annoncé par les marchés. On peut difficilement comparer tout de même le Royaume-Uni avec la situation de la Grèce au début des années 2010, parce que là, dans le cas de la Grèce, que craignaient les marchés ? C'était que le gouvernement grec ne puisse pas rembourser sa dette. Aujourd'hui, les marchés encore ont confiance dans la capacité de l'État britannique à rembourser sa dette et au rôle important qu'a la Banque d'Angleterre.
Néanmoins, le signe fatal a été l'augmentation du taux d'intérêt qui a eu des effets sur les mortgages, comme on dit de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire les crédits des Britanniques qui, contrairement d'ailleurs aux Français, sont majoritairement endettés avec des contrats avec des taux variables. Catherine Mathieu.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui pour la plupart des grandes économies, hein. C'est d'avoir ces taux d'intérêt qui augmentent. Alors on a une partie de la hausse des taux d'intérêt qui est due au fait que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux directeurs, qu'elle est suivie par les autres banques centrales, notamment par la Banque d'Angleterre, que cela fait remonter l'ensemble des taux d'intérêt. Et effectivement, pour les ménages britanniques qui sont plutôt endettés et qui sont plutôt endettés à taux variable, dès qu'on a une hausse des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on rembourse plus un crédit on doit donner des montants plus élevés pour rembourser son crédit. Donc ça pose un problème supplémentaire aujourd'hui aux ménages britanniques qui sont déjà touchés par une inflation de près de 10% et des salaires qui n'augmentent en moyenne que de 5%. Donc des ménages britanniques déjà fragilisés par la hausse, par l'accélération de l'inflation, qui voient leur charge d'intérêt qui augmente. Donc c'est un problème qui est là. Et puis cette hausse des taux d'intérêt, elle pose aussi des problèmes, bien sûr, pour le financement des entreprises. Elle a posé un problème particulièrement depuis quelques jours à certains fonds de pension qui doivent verser les retraites aux retraités et qui n'avaient plus suffisamment, qui n'avaient pas les moyens de verser au jour le jour les retraites. Et donc il a fallu que la Banque d'Angleterre intervienne en faisant un plan de soutien de 65 milliards pour aider les fonds de pension, certains fonds de pension, à pouvoir continuer à faire leur activité sans avoir trop de problèmes.
Vous parliez d'orthodoxie budgétaire. Il faut dire que Liz Truss et Kwasi Kwarteng, son ex-ministre des Finances, donc, avaient été un peu punk, hein, d'une certaine manière, parce qu'ils avaient remercié le patron du Trésor britannique, Tom Scholar, un homme très respecté qui avait affronté plein de crises. Et puis, ils avaient aussi refusé de faire passer leur budget devant l'OBR, l'Office for the Budget and Responsibility, ce qui était vraiment casser la tradition.
Ah oui, là, Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont vraiment présenté ce plan pour la croissance qui reposait vraiment uniquement sur des mesures néolibérales, en faisant fi de toutes les institutions que vous venez de nommer, en particulier de l'Institut budgétaire indépendant qui doit faire les prévisions sur lesquelles sont assises le budget et qui est un élément important pour aussi rassurer les marchés sur la crédibilité des mesures qui sont prises en matière budgétaire et sur leur impact macroéconomique, en remerciant le directeur du Trésor, en consultant très peu, voire pas, la Banque d'Angleterre avant de proposer ce plan. Donc on a l'impression que Kwarteng et Truss ont vraiment conçu ce plan pendant l'été, tous les deux, et se sont dit, on va faire un grand bing-bang, on va proposer ce plan qui va séduire les marchés et les entreprises et remettre l'économie britannique sur le chemin de la croissance. Mais la difficulté pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ce type de politique néolibéral, on a déjà pas d'exemple que cela ait marché, d'une part, et d'autre part, au niveau des institutions et même des marchés, on ne pense pas que cela va fonctionner. Donc ils se sont trouvés très isolés dans leur démarche, y compris chez les conservateurs qui avaient élu Liz Truss peu de temps avant.
C'est vrai que Liz Truss croit ou croyait, on ne sait pas, à la fameuse théorie du ruissellement économique dont on a beaucoup parlé en France au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous parliez du camp conservateur, Catherine Mathieu, il paraît complètement divisé entre donc partisans de la dérégulation absolue et ceux que l'on pourrait qualifier de budgétairement responsables aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors, il est vrai qu'il y a toujours eu ces deux camps, de nombreuses années chez les conservateurs. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ce soit Liz Truss, qui a été d'ailleurs élue en fait par les adhérents du Parti conservateur, plutôt que par les parlementaires conservateurs eux-mêmes. C'est aussi pour cela qu'elle se trouve aujourd'hui dans une situation minoritaire au sein même des conservateurs. Pour de nombreux parlementaires conservateurs, il est important de prendre en compte le fait qu'il y a aujourd'hui une crise énergétique, des ménages qui sont fragilisés par la hausse de l'inflation, des ménages auxquels on ne peut pas dire simplement qu'on va baisser l'imposition sur les revenus des plus riches et ne rien faire pour eux, voire éventuellement ne pas indexer les prestations sociales sur l'inflation, creuser les inégalités de la société britannique, des inégalités qui sont déjà fortes actuellement. Donc y compris ce point-là, chez les conservateurs, chez une partie des conservateurs, pose problème. Et puis sur d'autres éléments, notamment sur la transition écologique, Liz Truss est allée aussi très loin en disant qu'elle suspendait le moratoire sur l'extraction de gaz du schiste, qu'elle relançait l'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord. Ça aussi, ça pose problème à un certain nombre de parlementaires conservateurs. Ça n'était pas dans le programme des conservateurs lors des dernières élections législatives de 2019. Donc Liz Truss prend des mesures qui sont celles qu'elle pense être les bonnes pour la croissance, mais sans tenir compte de l'avis des conservateurs et encore moins de la majorité de la population britannique, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a une popularité extrêmement faible.
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer sur le plan politique? Est-ce que les partisans de Liz Truss ont déjà averti, d'ailleurs, les Tory plotters, comme on dit en Grande-Bretagne, les conservateurs comploteurs, qu'à trop rouspéter contre elle, eh bien, ils risquent de provoquer des élections générales qu'ils pourraient perdre parce que, eh bien, les travaillistes sont en hausse sensible dans les sondages. Et d'ailleurs, on peut se demander si les travaillistes pourraient en profiter. Donc, qu'est-ce qui peut se passer, Catherine Mathieu?
Alors aujourd'hui doivent se réunir des parlementaires conservateurs qui sont favorables à Rishi Sunak, qui était le principal concurrent de Liz Truss pendant les élections de cet été, qui pourrait essayer de faire tomber Liz Truss. Bon, en principe, ce serait difficile pour eux de la faire tomber parce que si on relance des élections au Royaume-Uni, comme vous le disiez à l'instant, il y aura très probablement une vague de votes pour les travaillistes, alors qu'aujourd'hui, les conservateurs ont une forte majorité au sein du Parlement britannique. Donc c'est une situation très très difficile pour les conservateurs. Essayer de destituer Liz Truss et de remettre en place un gouvernement qui serait plus conforme à ce qu'ils souhaitent, tout en évitant des élections législatives qui, il est sûr, les mènerait à la catastrophe, une sorte d'équation insoluble.
Théoriquement, il y a un principe qui empêche les parlementaires de ne pas faire tomber un Premier ministre pendant sa première année de mandat, les parlementaires de son groupe, hein, j'entends.
Oui, tout à fait. Alors, certains conservateurs essayent de faire changer cette règle, d'une part. D'autre part, on peut aussi dire que ils ne changent pas cette règle, les conservateurs. Malgré tout, ça sera très difficile pour Liz Truss de continuer à avancer, à proposer des mesures, à faire voter des mesures au Parlement britannique si elle n'a pas l'aval de la majorité des conservateurs. Et c'est pour cela que très rapidement, elle a décidé de licencier son chancelier de l'échiquier dont elle est très proche, de mettre en place un chancelier de l'échiquier, Jeremy Hunt, qui est plus modéré, qui a davantage... sans doute qui permettra davantage d'obtenir un consensus auprès des conservateurs. Elle semble en train, aujourd'hui, Liz Truss, de modifier sa politique au jour le jour pour essayer de rester en place en s'assurant la majorité des conservateurs. Très probablement, elle aura du mal à tenir très longtemps cette stratégie, mais c'est vraiment une situation tout à fait extraordinaire au Royaume-Uni en ce moment.
Ouais, c'est une chance néanmoins pour Keir Starmer, le patron du Parti travailliste, après qui a recentré le parti, donc le Labour, après les années Jeremy Corbyn.
Oui, bien sûr, parce que justement, Keir Starmer, en recentrant le Parti travailliste, avait du mal à regagner en popularité, y compris auprès des travaillistes qui lui disaient qu'il fallait garder des mesures plus à gauche au sein du Parti travailliste. Et avoir Liz Truss qui s'est déportée complètement vers l'aile droite du Parti conservateur, vers des politiques néolibérales, ça ouvre un boulevard à Keir Starmer pour dire aux électeurs britanniques, le Parti travailliste, c'est le parti qui va être responsable sur le plan budgétaire, c'est le parti qui est sérieux, qui va prendre en compte les problématiques aujourd'hui importantes face à la crise de l'énergie, le pouvoir d'achat des ménages, la transition écologique. Donc Keir Starmer peut rassembler une partie des conservateurs modérés et une partie des travailleurs centristes et espérer gagner des élections, mais en recentrant énormément le Parti travailliste, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des grèves au Royaume-Uni, et Keir Starmer soutient très peu les grévistes. Hein. On a vraiment un Parti travailliste qui s'est recentré.
Voilà, un œil sur les grèves, un autre aussi sur la réaction des marchés financiers dans la journée, pour voir comment ces marchés accueillent la nomination donc de Jeremy Hunt, le nouveau chancelier de l'échiquier en Grande-Bretagne. Merci beaucoup Catherine Mathieu d'avoir été avec nous dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni.
France Culture, l'esprit d'ouverture.